Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, que Dieu nous bénisse ce matin à travers sa parole. Je pense que les uns et les autres nous y préparons, nous demandons que Dieu nous parle, qu'il nous enseigne. Et dans ce désir, eh bien, je vous propose que nous ouvrions l'évangile de Jean. Évangile de Jean. Nous allons prendre un thème, oh, vous le connaissez, ça ne sera pas difficile. Chapitre 10. Et verset 9. C'est une parabole qui nous délivre un formidable message à travers quelques mots qui sont répétés et que nous allons joindre à d'autres versets que nous allons chercher dans la Bible. Alors, Jean. Chapitre 10, verset 9. Il est bien entendu que c'est Jésus qui parle et il nous dit « Je suis la porte. » Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis la porte, nous dit Jésus. Et le thème de notre message, c'est la porte et la clé. Ça vous va? Je peux m'arrêter là maintenant, c'est bon? Vous voulez en savoir davantage? Ah oui, bon, très bien. J'ai compris, je ne peux pas faire autrement. Et il est bien précisé que si quelqu'un entre par moi, ce n'est pas par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce qu'elle invente invention des hommes, quelques moyens, quelques idéologies, philosophies, religions également. Pourquoi pas? Si quelqu'un entre par moi, le but est déjà affiché. Il sera sauvé. On ne va pas faire des élections ce matin, mais on peut dire tous que nous sommes sauvés parce que nous sommes entrés par Jésus-Christ. Vous n'êtes pas monté par, vous n'êtes pas venu par en passant par une fenêtre, par le toit. Enfin non, c'est Jésus, hein. D'accord. Je vérifie quand même. Et voilà que il proclame ce que les hommes aiment le plus, c'est la liberté. Il entrera et il sortira. C'est bien l'image, naturellement, et bien de l'homme. Et il trouvera des pâturages, c'est-à-dire bien naturellement mis à la manière, en effet, bien du monde animal qui va dans les pâturages, hein, les ruminants par exemple. Mais toujours est-il qu'il trouvera des pâturages. Avec Jésus, on a la nourriture non pas suffisante, mais abondante. Eh oui, et de qualité, dans la perfection. Parce qu'il soulignera, si nous avons peut-être quelques doutes pour savoir qui dit vrai, qui dit faux, qui est ceci, qui fait cela, etc., etc., il dira, mais le voleur. Alors le voleur ne vient que pour dérober, voler. Il vient pour égorger, faire couler le sang. Hein, c'est un meurtrier. Il vient pour détruire. Et Jésus spécifiera, il dira, mais moi Jésus, moi qui suis la porte, je suis venu, si vous voulez savoir quelle est la raison de mon incarnation, moi qui suis Dieu, de mon incarnation, venu dans un corps d'homme, afin que les brebis et la vie. Et ce n'est pas seulement la vie comme nous la connaissons ici-bas, mais la vie, et on prolonge, dans l'éternité, l'immortalité, qu'ils aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Alors voilà. Donc, on va commencer par rechercher dans notre Bible quelques références où il est question de clés. C'est important, et vous allez voir qu'il y a des choses qui vont nous rappeler naturellement des souvenirs. Je voudrais vous entretenir dans un premier temps des clés, des promesses divines. Vous savez qu'il y a des centaines et des centaines de promesses. Et ces promesses, n'en doutez pas, ce sont les verts pâturages. C'est là où pouvons trouver tout ce qui nous est nécessaire pour vivre, pour servir, pour aimer, pour faire tout ce que l'homme a été créé sur la terre à faire, quoi qu'il en soit. Et il y a des promesses divines. Elles ne sont pas négatives, elles sont positives. Elles sont la vie. Il y a également, on pourrait peut-être mettre à côté ce que Jésus nous enseigne quand il parlera à un moment particulier. Il parlera des clés de la science. Nous sommes immergés dans un monde où aujourd'hui le Dieu qui règne, c'est la science. Alors il y en a une bonne, et puis il y en a une mauvaise dans la science. On ne peut pas rejeter, puisque l'intelligence, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Mais quelquefois, il peut y avoir où on outrepasse les frontières et on remplace le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, le Dieu tout ce qu'il a fait, par je ne sais quelle compromission, où on se dit, bon, ça c'est très bien, la Bible le dit, etc. C'est vrai pour les chrétiens. Mais il y a quand même des choses formidables et qui, quelque part, lorsque ce sont des sciences théologiques ou des sciences religieuses, alors là, on va dans le chemin contraire à ce que Dieu avait préparé. Donc on va parler des clés de la science dans quelques instants. Il y a naturellement, avec un texte majeur, c'est les clés du royaume de Dieu. On va le retrouver d'ici, je vous donnerai les références. Les clés du royaume de Dieu, dans ce royaume, il y a une porte pour y rentrer, Jésus. Et il y a une clé particulière. Oh, c'est le sujet principal, finalement, de tout le message de la Bible. On en parlera. C'est la confiance, que l'on appelle la foi. D'accord ? Et puis, il y a les clés de toutes les victoires. Il y a les promesses. Mais les promesses sont les promesses. Et puis, l'aboutissement des promesses, si je les sers dans mon cœur par la foi, par la confiance que je mets en Dieu, eh bien, alors à ce moment-là, c'est la clé de toutes les victoires qui sont à notre disposition pour notre équilibre, pour notre santé, pour nos maladies, pour nos maux, pour nos soucis, pour ceci, pour cela, pour toutes les circonstances qui sont autour de nous, dans lesquelles nous sommes impliqués nécessairement parce que nous sommes que des humains. Et puis, je terminerai par cela, ça sera la conclusion. Ce sont les clés des symboles cultuels évangéliques. Alors là, je ne vous dis pas tout de suite ce que c'est, parce que on les vit. On les vit chaque dimanche. Je dis bien les clés. Oui, c'est ce qui nous fait vivre. C'est aussi l'image des verts pâturages dans lesquels nous pouvons nous rassasier, dans laquelle nous pouvons nous souvenir, dans lesquels nous pouvons nous engager dans toutes sortes de choses semblables. Je voudrais préciser une chose qui est importante. Parce qu'il y a divers types de clés. D'abord, la clé, c'est une sécurité qui nous permet de fermer une porte et d'être à l'abri. C'est bien ça. On a tellement d'histoires à raconter sur nos clés, que l'on perd, que l'on égare. Oh là là, c'est toujours des moments de panique, hein. Moi, dernièrement, j'ai perdu mon trousseau de clés. Sans le savoir, mon épouse me dit, va donc à la poubelle et mets dans le sac de poubelle. Qu'est-ce que j'ai mis dans le sac? J'ai mis les clés. Ouah ! Alors imaginez-vous, le sac était fermé, je ne pouvais pas les ouvrir, les clés étaient dedans. Bon. C'est une garantie, les clés. Et tiens, à propos, est-ce que vous avez fermé votre porte ce matin? Ah, vous affolez pas, le Seigneur veille. Quelquefois, il y a des paniques comme ça. Alors, je voudrais simplement donner un petit horizon, mais alors très, très, très limité. Il y a toutes différentes types de clés. Il y a les clés, tout simplement, on pourrait dire mécaniques. Hein, c'est, voilà, c'est... Il y a les clés magnétiques. Voilà. Il y a les clés électroniques. Il y a les badges à distance. Comme ça, vous pouvez ouvrir toutes les voitures du parking. Et non, c'est pas comme ça que ça marche. Puis vous partez avec une voiture, elle est gratuite. Il y a les clés numériques, USB, et puis tout le reste. Hein. Bon, je passe, hein, parce que là, on pourrait... C'est pas trop intéressant. Mais enfin, bon, c'est simplement pour vous mettre en condition sur le sujet que nous allons aborder. Le premier sujet, c'est les clés des promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, il y en a plein dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et nous tombons sur, quelquefois, des choses qui sont extraordinaires. Dans Ésaïe, par exemple, vous me laissez, hein, vous pouvez regarder, vous pouvez noter si vous voulez, mais parce que je vais passer quand même assez vite. Hein. Dans Ésaïe, eh bien, il y a une présentation qui est faite. Alors, donc, Ésaïe 22, et nous allons voir de quoi il s'agit quand il est parlé des clés. Hein, j'ai oublié de marquer ma page, mais c'est pas grave, on va la retrouver tout de suite. Alors, voilà, 22, voici. J'y suis. Et le verset 22 également. Le verset 22 nous dit ceci. C'est Dieu qui parle. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. » Tiens. « Quand il ouvrira, nul ne fermera. Et quand il fermera, nul n'ouvrira. » Vous connaissez ça. Je crois que ça se retrouve dans le livre de l'Apocalypse. La souveraineté de Dieu sur toute chose. Qui sait tout, qui peut tout, et qui est présent partout. Voilà. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Alors, bien sûr, il y a une pensée messianique dans tout cela, hein, annonçant naturellement avant le temps, eh bien, la personne de Jésus. Qui est-il, ce il ? Oh, moi, je voudrais y voir tout simplement une anticipation de Christ, venu parmi les hommes pour les sauver. On pourrait dire que c'est une christophanie. On peut le dire comme ça. Et il nous est dit, mais en lui, par lui, toutes les promesses de Dieu se réalisent. Et c'est l'apôtre Paul qui aura cette écriture, il dira, mais les promesses de Dieu, tout est oui et amen. Alors pourquoi nous doutons? La question, elle est là, elle est pour nous. Savez-vous que dans l'Antiquité, depuis les temps immémoriaux dans l'histoire des hommes sur la terre, les clés ne tournaient pas dans un verrou, c'est autre chose, c'est un autre système, costaud, hein, dans les châteaux forts, enfin, d'une manière ou d'une autre, dans les maisons, voilà. Hein. Quelquefois, certains étaient très primaires hein, comme système, mais ça pouvait être solide. Elles servaient simplement à maintenir une pièce de bois qui barrait la porte. Voilà. Hein. Et en tant qu'on a abandonné le système, parce que, dites donc... On a combien de portes dans chacune de nos maisons, hein, avec une grosse pièce de bois, vous voyez. Hein, bon, je vous laisse deviner ce que ça peut être. Contrairement à ce que nous pourrions penser, les clés, petites ou grandes, hein, je ne sais pas, hein, j'ai aucune... Mais bon, c'est quand même les commentaires bibliques qui le précisent pour que je vous le lise. Les clés se portaient soit à la ceinture, ou alors tout simplement sur l'épaule. C'est pour ça qu'ils disent ce que nous avons lu tout à l'heure. Hein, ils portent sur l'épaule, voilà. Vous savez pourquoi l'épaule ? Parce que l'épaule est l'image de l'autorité et de la force. Quand les gens veulent soulever des sacs, les hommes, hein, voilà, ils portent sur l'épaule, hein, et c'est l'image de la force pour emporter quelque chose. Et moi, je crois qu'on peut faire un rapport avec Jésus qui s'est chargé sur ses épaules de tous les poids oppressants de l'humanité. Quelque part, on peut le dire. Hein. Et... Nous voyons que nous pouvons encore nous décharger sur Jésus. Il est dit à un moment, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, c'est-à-dire, ça veut dire de lui faire tout simplement confiance. Clé de la maison de David. Alors c'est une anticipation que Jésus, eh bien, serait fils de Dieu, il est fils de l'homme, mais il est aussi le fils de David. Eh bien, nous voyons que tout cela, eh bien, servant à entrer ou à sortir du palais royal, puisque David était roi. On peut le dire de cette manière. Le prophète annonce ceci, c'est que Jésus est le médiateur. Il ouvre, il ferme. Voilà. on peut le comprendre. Il est la clé entre Dieu et les hommes. D'ailleurs, il le dira d'une manière tellement évidente. Il dira, mais n'oubliez pas que je suis le chemin qui mène à la porte. Il est la porte lui-même. Je suis la vérité. Je ne vous dis pas de mensonge. Je suis la vie et nul ne vient au Père que par moi. Il y a là quelque chose de formidable dans la chronologie des choses et puis dans la confirmation de la divinité de Jésus venue en homme pour justement eh bien, porter les fardeaux et puis ouvrir et fermer les portes. L'accès par Jésus, c'est-à-dire en son nom. En mon nom, vous pourrez prier le Père, en mon nom, quand deux ou trois sont réunis, en mon nom. Alors, l'accès de Jésus auprès de Dieu assure de toutes les promesses de bénédiction présentes et éternelles, ouvrir et fermer. Naturellement, il faut compter avec le temps, qui n'est pas notre temps à nous, mais qui est le temps de Dieu. Dieu n'a jamais renoncé à nous bénir quand ce que nous lui demandons est dans sa volonté. Maintenant, après, ce qui quelquefois nous fait un petit peu sourciller, c'est parce que on ne connaît pas comment, on ne sait pas où, et on est pressé d'avoir tout de suite. Mais c'est toujours naturellement et bien Dieu qui détermine tout cela. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7, je cite « Voici ce que dit celui qui a la clé de David ». Encore une autre référence. « Celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira ». Ne vous faites pas de soucis, mes frères et sœurs. Tout est dans la pensée de Dieu. Et si nous voulons aller contre, bousculer les choses ou retarder les choses, ça s'ouvrira qu'au temps convenable, naturellement. Ça, c'est, on pourrait dire que c'est l'obéissance que Dieu attend de nous. Quelquefois, on essaie de donner des petits coups de coude à Jésus en disant « Écoute, ça urge. » Voilà. Tu pourrais retarder un petit peu les choses parce que j'ai peur. Et puis tout. Non. Celui qui ouvre, il ouvre. Et personne ne fermera, et puis le contraire, vice-versa. Quand Jésus ouvre la porte, c'est-à-dire, comprenons notre porte à nous, la porte de notre cœur, de notre conscience, de notre esprit, pour y faire pénétrer l'Évangile, parce que c'est ça le premier cadeau, c'est ça la première chose. Il veut meubler à l'intérieur de nous-mêmes. Il veut nous donner justement tout ce qui sera favorable à faire triompher l'Évangile à travers notre vie de chrétien. Eh oui, personne ne peut refermer derrière. « Nul ne les ravira de ma main. N'ayez pas peur. » Il nous est dit que là, eh bien, que finalement, les puissances des ténèbres ne triompheront pas contre son Église. Ce sont des promesses. Pourquoi avons-nous peur? Eh oui, n'avons-nous pas cette confiance? Alors, il ouvre, et quand il ferme, à cause de l'endurcissement, parce que là, nous avons un petit peu... Quand ça manque d'huile dans le verrou, cet endurcissement et cette incrédulité, alors là, il faut véritablement traiter le problème. Et il va nous aider à le traiter. Et il est patient, le Seigneur. Il peut attendre toute une vie avant que nous soyons vraiment prêts à ouvrir la porte. On le voit quelquefois autour de nous. Il ne s'est toujours pas converti. Mais qu'il se convertisse ou pas, ce n'est pas notre affaire. Si, compassion, bien sûr, pour la personne de l'avoir sauvé et de l'avoir partagé le bonheur éternel. D'accord, mais c'est Dieu qui sait. Il connaît la vie de cette personne, il connaît son présent, il connaît son avenir. Et quand Dieu ouvre le fils prodigue qui revient à la maison, il est parvenu avant. Et la fermeture, incrédulité et quelque part révolte de son frère aîné, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était fermé. Mais c'est lui qui a fermé la porte, le frère aîné, vous savez. Celui qui ronchonne toujours là. Alors, cette clé qu'on appelle la foi, parce qu'on va la retrouver finalement eh bien, à chaque étape de notre message, cette foi ouvre toutes les portes. Nous avons des clés qui sont destinées à telle serrure, etc. Bah oui, heureusement, parce que dites donc, c'est pas la peine d'avoir des portes et c'est pas la peine d'avoir des clés. Mais elles sont spécifiques. Et pour l'un, ce sera d'une manière, pour l'autre, ce sera d'autre. Il y a des clés qui sont à cran, il y a des clés qui sont différentes, ça c'est... Mais ça ouvre toutes les portes. La foi est véritablement, comme on le chante, « Ô quel riche trésor, un cœur qui vit de ce que Dieu dit. » Ça, on ne chante plus, il y a bien longtemps. Alors, c'est un gage d'assurance et de certitude. Être en dehors ou être en dedans, on est dans la maison ou on ne l'est pas. Si on n'a pas la bonne clé, on est dehors. Et on peut se réfugier, on peut avoir véritablement le bonheur de vivre dans une maison qui a été préparée, parce que finalement, eh bien, on est dedans. Voici, je frappe à la porte, dit Jésus. C'est pour les amis qui nous rejoignent là, peut-être, qui ne sont peut-être pas familiarisés avec l'expérience de l'évangile, mais vous allez l'être. Et parce que le Seigneur vous a appelé. Et Jésus le dit, voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, alors on ouvrira. Vous avez déjà ouvert ou entrouvert votre porte. Persévérez, allez jusqu'au bout et vous allez voir que Dieu va vous faire rentrer dans son palais. Ça, c'est les clés des diverses promesses de Dieu. Nous avons besoin d'y croire. Seigneur, augmente-nous la foi. Donne-moi plus de foi, Seigneur. Parce que on marche par la vue, là, ici-bas. Hein, et on se trompe souvent en marchant par la vue. Hein. Mais de l'autre côté, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Rien à voir avec notre dispensation, notre économie humaine. Il y a les clés de la science, je vous ai dit tout à l'heure. Parce que il y a les deux qui cheminent ensemble. Il y a la science de Dieu, à travers ces livres que nous avons extraordinaires, les livres poétiques, et je pense particulièrement à Proverbes, et puis toutes les épîtres où il est donné des conseils, multipliés finalement, des bons conseils et toutes sortes de choses. Ça, c'est véritablement la science selon ce que Dieu donne aux hommes. Mais il y a une pseudo-science dont les hommes se gavent, et ça leur permet d'oublier Dieu. Et ça leur permet de dire, mais nous sommes Dieu nous-mêmes, vous rendez compte? Ouais. Et cette science-là, elle envahit le monde entier aujourd'hui. Et plus ça va, plus ça déborde. Hein. Depuis le siècle des Lumières, on ne s'est jamais arrêté. Je ne veux pas dire qu'il y a des mauvaises choses, que des mauvaises choses. Mais l'homme s'est éloigné de son Créateur. Il s'est éloigné de sa destination, il ne sait plus du tout où il va. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont ennemis de Dieu. Ils sont ennemis de la vérité. Et ils s'entretuent les uns les autres. Quel fouillis! Alors, les clés de la science, nous l'avons expliqué, nous voulons l'expliquer dans Luc, chapitre 11, verset 52. Jésus veut traiter le problème, parce qu'il faut le traiter, parce que c'est grave. Luc 11, verset 52. « Malheur à vous, docteurs de la loi !» Quand on commence à appeler les gens docteurs, docte, celui qui sait, celui qui est au-dessus des autres. Et en Israël, c'était véritablement des champions, hein, ceux-là. Parce qu'au lieu d'amener les hommes, les Israélites, à Yahvé, Jéhovah, si vous voulez, hein, Adonai, et puis tous les noms de Dieu qui le caractérisent par une facette ou par une vertu, alors à ce moment-là, ben, ces gens avaient détourné finalement au profit religieux. Pour le profit religieux, d'un judaïsme qui n'était plus inspiré, mais d'un judaïsme qui était devenu finalement eh bien, une abomination quelque part. Bon, vous retrouvez les textes. « Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Ah, kidnappé, soustrait, subtilisé les choses que Dieu vous a données qui étaient bonnes, que vous pouvez interpréter par votre intelligence. » Et si vous étiez resté finalement dans le droit chemin, eh bien, cette science, cette intelligence, vous aurait amené beaucoup plus loin. Elle vous aurait révélé des choses que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez jamais sur ce chemin-là. Vous avez enlevé, vous avez kidnappé. Vous savez, quand on s'est converti à l'Évangile, c'est-à-dire à Jésus-Christ, et qu'on est sorti d'une religion, aujourd'hui, on voit d'où on était tombé. On voit où on était tombé et dans quelle profondeur. Parce que quand on fait la comparaison de la théologie biblique, évangélique, par rapport à toutes les théologies religieuses, on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que l'on est... Mais c'était la tradition. On ne nous a pas demandé d'abord. Hein. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, hein. On ne nous a pas demandé, on nous a dit, voilà, tu es ceci, tu es cela, tu es catholique, tu es protestant, tu es... Tout ce que l'on veut. Et ça se décline dans toutes les religions, même les religions non chrétiennes. Vous avez mis la main sur la science, la vraie science, pour vous donner finalement, pour satisfaire votre pensée, satisfaire votre chair, vous avez créé des pseudo-religions, des pseudo-, enfin, tout ce que vous voudrez. Alors, Vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même et vous avez empêché ceux qui voulaient y entrer. C'est terrible. Et vous savez, on comprend que Jésus a été bienveillant, je peux dire, a été magnanime avec les prostituées, les pauvres gens de son temps, de son peuple. Mais par contre, il était intransigeant, intraitable avec toute cette classe de pharisiens, de sadducéens, de docteurs de la loi, mis à part quelques-uns, Nicodème par exemple, ou Joseph d'Arimathée. Mais autrement, c'était terrible. C'est-à-dire qu'ils ont confisqué à leur bénéfice, à leur profit, à leur religion, à leur chapelle, finalement, eh bien, ce que Dieu avait donné, pour dire on le met de côté, et maintenant, c'est nous qui sommes Dieu sur la terre. Et c'est nous qui dirigeons. Nous sommes les maîtres de la conscience de ces gens. Et nous en faisons ce que nous voulons. S'il arrive que les hommes, à leur manière, veulent pénétrer dans le royaume de Dieu, comme on vient de l'expliquer, à défaut d'utiliser la bonne clé, c'est-à-dire la foi en Jésus-Christ, pas la foi dans un clocher, pas la foi dans une religion, et qu'ils ne le mettent pas sur la bonne porte, cette clé, parce qu'on a inventé toutes sortes de médiateurs et de médiatrices, des saints, des saintes, hein, des hommes de renom religieux, que ce soit un pape ou un patriarche ou tout ce que vous voudrez, ça c'est pas la bonne porte. On s'égare avec ça. Ils n'ont pas la bonne clé, ils l'ont subtilisée, et ils se trompent encore de personnage. Il n'y a que Jésus qui sauve. Et c'est pas la peine d'en inventer, il n'y a qu'un seul nom par lequel nous devions être sauvés. Allez, vous finissez la phrase. Qui ont multiplié les tentatives à l'instar des intrus. Et les intrus dont je viens de citer le mot, ce sont les voleurs, ceux qui égorgent. Ceci et celui. Celui qui n'entre pas par la porte de la brebis, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Voilà, Jésus les appelle comme ça. Eh bien, allez le dire dans notre monde pseudo-religieux aujourd'hui, vous allez vous faire couper la tête, parce que pendant des siècles et siècles, on coupait la tête à tous les opposants et qui voulaient présenter Jésus comme le sauveur. Brûler les Bibles. Bon, ça, c'est de l'histoire. On ne va pas rentrer encore là-dedans parce qu'on n'est pas sorti. Un des moyens était de s'imaginer, pour tous ces voleurs et ces brigands, qu'on pouvait s'approcher et plaire à Dieu par l'acquisition de la connaissance universelle. Alors il y en a qui sont apparentés, chrétiennes ou évangéliques, mais il y en a d'autres, ça vient des souffles de l'Orient. Moi je pense au yoga. À travers toutes sortes de choses que l'on va gratter de droite et de gauche en disant « Ah ben oui, mais il y a un peu de Dieu, c'est du syncrétisme ça !» Mais c'est pas pour ça que c'est la vérité du Seigneur. Et posséder la clé de la science, de vouloir dire ben, « Nous avons la clé de la science. » C'est pour cette raison que les routes de l'Éden ont été barricadées. Vous savez, les chérubins qui ont été mis là. Parce que la vérité avait été révélée. « Tu ne mangeras pas de ce fruit de la vie, tu mangeras de l'arbre de vie. » Terminé, parce que, vous savez la suggestion, « Tu seras comme Dieu, tu auras la connaissance du bien et du mal, etc. » Et c'est là de ce que nous parlons, dans le livre de la Genèse. « Docteur de la loi, légiste, philosophe, théoricien, les sages, on peut parler des gourous, des religions de toute acabine ont cessé de se multiplier pour offrir sous des noms pompeux de sciences, parfois occultes, souvent occultes, des sciences à mystère, les secrets du ciel. Et Jésus dira cette belle prière à un moment donné dans Matthieu chapitre 11, que nous connaissons bien. « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Quand il est parlé de ça, ces choses, c'est l'Évangile, hein, c'est la vérité de l'Évangile, hein, c'est la lumière de l'Évangile. Alors, de ce que tu les as cachés, aux sages et aux intelligents pour les donner aux enfants. Regardez dans la compagnie de Jésus, hein, mis à part Paul, qui venait après. Mais c'était que des simples gens qui se laissaient conduire par l'Esprit et qui avaient une foi d'enfant. Jésus reviendra. Alors, la vraie science selon la Bible, c'est la volonté de Dieu qui est exprimée. Et ça nous fait connaître quelque chose, c'est d'abord la connaissance de notre propre corruption et de notre péché. Ça, c'est le point numéro un. Tant que l'homme ne se reconnaîtra pas indigne, pécheur, menteur et tout ce que vous voudrez, eh bien, il n'ira pas plus loin. Parce que justement, toutes ces fausses sciences sont là pour essayer d'édulcorer un peu, en disant, t'es pas si mal que ça. Et puis, il y a des bonnes œuvres. Tu vas mériter ton ciel. Ceci et cela. Ça, c'est toute la composante, finalement, de ce que nous racontent les fausses sciences. Alors que l'évangile va droit au but. Hein. T'es pécheur. Dieu te fait grâce. Fais confiance. Il t'a sauvé. Crois-le et tu seras sauvé, tout simplement. C'est pas des gens qui ont des plateaux là au niveau de l'esprit et qui sont je ne sais pas combien de ciel au-dessus. Seule cette connaissance conduit à la repentance, faut le dire, à la repentance et à une vie transformée. Et pourquoi Jésus dira, vous enlevez la clé de la science, vous la subtilisez, vous la prenez pour que les gens n'y voient pas. Et il y en a un qui est le grand marionnettiste et qui aveugle. Eh bien, c'est lui, vous le connaissez. Vous enlevez la clé de la science par de belles actions et d'hypocrites comportements. Ils se disent et ils ne font pas. Je suis en train de reprendre un petit peu, recomposer les paroles comme ce que je prends de droite et de gauche. L'évangile n'a pas de pire ennemi que l'esprit religieux, vous ne le direz pas. Et faisons attention aussi, nous, dans notre monde évangélique, qu'on ne tombe pas dans le même panneau. Hein. Parce que quelquefois, à force de vouloir renifler de droite et de gauche, parce qu'on est peut-être sensibilisé à travers le miracle, à travers le miraculeux, à travers le surnaturel, mais ce n'est pas le miracle et le surnaturel qui sauvent, hein, au niveau de l'intérieur. C'est ce que Dieu nous dit pour une vie d'équilibre, une vie de sagesse, une vie de paix. Et puis surtout, en mettant au cœur l'amour. Ils font, ils le disent, mais ils ne le font pas. Vous voulez les empêcher d'entrer. C'est le bagarre. Ça a toujours été la lutte des guerres de religion ou entre les religions, tout ça. Moi, j'ai la vérité, toi, tu es. Non, c'est pas ça. Moi, ma vérité, c'est ça. Et il n'y en a pas d'autre. Hein. Non, la vérité, c'est Jésus. C'est pas une chose, c'est pas une théologie, c'est une personne vivante, morte pour nous et ressuscitée. Jésus conclura pour cette page. Il dira... la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Bouddha, Mahomet, non, Jésus-Christ. On va passer à la troisième phase, troisième explication, c'est la clé du royaume de Dieu. Dans Matthieu, chapitre 16 et verset 19. Voilà. Jésus dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Les clés du royaume de Dieu. Ici, il n'y a rien à voir avec un mandat exclusif faisant de Pierre et de ses descendants l'unique détenteur de prétendues clés dites du paradis. Quand vous allez au paradis, quand vous irez, quand nous irons au paradis, moi je ne m'attends pas à voir Pierre à la porte. Hein. Parce que la porte c'est Jésus. Hein. Et tout un pan important du christianisme apostat, celui qui a rejeté la vérité, est bâti sur ça. Sur Pierre, particulièrement dans le catholicisme. Mais ce n'est pas à Pierre. Quand Jésus lui dit, on en reparlera peut-être à travers un autre texte plus tard, eh bien qu'il dit, je bâtis mon Église. Et ce n'est pas Pierre qui bâtit l'Église. Attention, hein, ça c'était la grande controverse à travers les siècles dans le christianisme, mais encore d'aujourd'hui, hein, parce que ça reste le même. Successeur de Pierre aujourd'hui à Rome? Est-ce que, quand on nous dit que le tombeau de Pierre est à Rome, ça serait peut-être à prouver, hein? Parce que rien ne prouve, Paul a été à Rome. Et Pierre? C'est pour ça, hein, qu'il faut être perspicace dans tout ça. Hein? On est enveloppé de toutes sortes de contes et de légendes qui n'ont rien à voir. Restons sur Jésus et son histoire dans l'Évangile. Et ça nous gardera de pas mal de... où on gambade dans toutes sortes de choses. Moi, je crois que tout ça, c'est important. Les clés dont Jésus parle ne sont autres que la prédication de l'Évangile. C'est la parole. La parole est une clé. Oui. Et la clé que Jésus nous a confiée pour nous aujourd'hui, c'est le numérique. Hein. Alors, ça plaît ou ça plaît pas à certains, parce qu'il faut bien réfléchir à la question. Hein. Moi, il y a une chose que je vois derrière tout ça, même si ça plaît pas, c'est que Jésus nous donne de remplir aujourd'hui la mission qu'on ne pouvait pas faire avant. Vous annoncerez l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Merci Seigneur. Et quand on est en dehors de ça, on a droit d'avoir cette vision de l'Église. Mais il ne faut pas que l'Église locale devienne l'Église bocale. Parce que là, on ne va pas loin. Hein. Moi, je me réjouis parce que maintenant, c'est mon ministère. Hein. Je vous le dis. Il est avec vous, bien sûr, mais bien aimé. Je ne veux pas vous abandonner. Mais quand même, on a changé. Vous savez, quand Gutenberg a mis sa petite machine en route, l'imprimerie, mais ça n'a pas plu, ça. Hein. Oh là là, c'est une révolution. Hein. Et tous les stages où il y a eu véritablement... ouais, ça ne plaît pas. Hein. Et pourtant, moi, je crois que Dieu est Dieu et il est Dieu de l'univers. Jusqu'aux extrémités de la terre. C'est important. Moi, c'est ma pensée. Maintenant... Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Ça, il n'y a pas de problème. Cette clé est un message, je vous l'ai dit, l'Évangile, qui ne fonctionne qu'en raison de ce qu'il est ou non accepté. Parce qu'on ne force personne. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est ce que nous avons fait pendant des siècles. Et qu'elle soit sous forme d'un pasteur qui prêche du haut d'une estrade, qu'elle soit à travers la page imprimée, qu'elle soit à travers des témoignages qui sont les vôtres, qu'elle soit à travers la vidéo sur Internet ou que ce soit de l'audio, tout ce que vous voudrez, la parole est prêchée. Et elle est prêchée de la même manière qu'elle est prêchée ce matin, bien que je ne me réclame pas d'être le meilleur de tous les prédicateurs. Bon. Et c'est ça, justement. Il y a deux résultats à ça. C'est la foi ou la crédulité. Mais ils ont entendu l'Évangile. Et moi, je me réjouis de ce que, quelquefois, eh bien, on a des retours avec cette technique où il y a des gens de différents pays qui nous envoient des mots et qui nous disent, écoutez, merci. Et s'ils se retrouvent dans une église, moi, je ne sais pas, en Ukraine ou en Russie, il ne fait pas bon y aller pour l'instant, mais ou peut-être en Amérique du Sud ou des choses comme ça, je me dis, mais moi, je n'ai pas travaillé uniquement pour l'église des ADD de France. J'aurai cette parole, si c'est la volonté de Dieu, eh bien, elle aura des répercussions là-bas. Et peut-être qu'il y a des gens qui viennent, on en a eu, qui se sont convertis hein, depuis 15 ans hein, que l'on fait ça, et qui se sont convertis, qui sont au milieu de nous, et qui, véritablement, se sont tournés vers le Seigneur et qui sont là, dans l'Église, alors qu'ils venaient sur un témoignage qui leur a été donné dans l'Est de la France. Le pasteur qui leur a donné cette adresse, ici, il n'a jamais entendu parler de ce qu'ils étaient. Mais dans le ciel, on verra des choses extraordinaires. Bon. Il y en a des choses à dire. Ouais. Allez, prêchez par tout le monde, enseignez-leur à observer tout ce que je vous dis, les clés du royaume de Dieu. La foi n'a rien de nébuleux et d'abstrait, elle est fondée sur du solide. Et ce solide, c'est cette parole qui nous a amenés à Jésus. La foi vient de ce que l'on entend, parce que l'on voit. Donc les miracles, là, c'est apprendre, c'est vrai, mais il faut pouvoir y ajouter une autre analyse, hein. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Elle vient de la parole de Christ, et qui suscite la foi. Dans ce royaume, la porte s'accompagne de la repentance et de l'humilité. À cette porte, une clé. C'est la foi dans la prédication, c'est un résumé. Jésus dira, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, beaucoup chercheront à y entrer, et ne le pourront pas. » Le manque de foi... ou le trop-plein d'orgueil et de préjugés, eh bien, ferme, ça ne s'ouvre pas. La clé ne tournera pas. Il faut laisser tout ça dehors. Je parle de l'orgueil et des préjugés. Hein. Et dedans, on y trouve la réalisation de toutes les espérances. À travers cette belle parole où il est dit, « Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous y trouverez du repos pour vos âmes. » C'est ça les verts pâturages du psaume 23. C'est ça la parole que nous avons. Ils rentreront, ils sortiront, donc, dixit la liberté, et ils seront dans l'abondance. Eh oui. C'est la clé du bonheur, et la clé du bonheur porte un nom, c'est la simplicité. Pas besoin de chercher, comme on disait dans le temps, on le dit peut-être plus, midi à 14 heures. On va pas tergiverser pendant des siècles. Hein. J'arrive à la fin. Les clés de toutes les victoires assurées. Apocalypse, chapitre 1 et verset 18. Jésus dit, « Je suis le premier et le dernier, et je suis le vivant. » Au siècle des siècles, attention, c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Vous savez pourquoi, on va en parler d'ici quelques instants. « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Dieu est le Dieu de la vie. Et il ne veut pas que les hommes meurent. Qu'ils meurent. Définitivement, éternellement. Je suis le Dieu de la vie, et je voudrais les souligner. Ça, c'est l'éternelle et énigmatique question. La mort et son aboutissement, qui n'est pas un mot biblique. Hein. Le mot enfer, vous ne le trouverez pas dans la Bible, ça n'existe pas. Mais par contre, vous en trouvez l'idée. Hein, lac de feu, de toutes sortes de choses. Hein. Voilà, tout ça, vous le trouverez. Mais le mot enfer n'existe pas dans la Bible. La seule contrepartie qui fait s'effondrer tous les raisonnements naturels, c'est la foi dans la résurrection. C'est le nec plus ultra du message, l'aboutissement du message de l'Évangile. La résurrection. Je suis le Dieu de la vie et de la mort. Mais la mort, elle est réservée pour ceux qui veulent finalement, eh bien, pas autre chose, hein, parce qu'ils préfèrent encore le mal au bien. Ils préfèrent encore les ténèbres à la lumière. Et puis là, on peut le multiplier autant que vous voulez. Hein. Parce que le tombeau est vide. Et la Bible nous le dit. La Bible nous affirme. Et c'est la preuve la plus flagrante, oui, voilà, de toutes les victoires qui ont été prises. C'est vaincre le diable, vaincre la mort, vaincre le péché. Tout simplement. La clé du mystère, la voici. Pourquoi, dira Jésus dans l'évangile de Luc, je crois. « Pourquoi chercher parmi vous les morts celui qui est vivant ?» Mes frères et sœurs, nos frères qui sont déjà maintenant dans la présence de Jésus, mais ils sont vivants. Nos amis, nos bien-aimés, ceux que nous aimons. Et on va y passer. À moins que le Seigneur revienne et qu'il enlève l'Église, naturellement. Alors, il est ressuscité, nous est-il dit. Et ça, ce mot, il est ressuscité, c'est véritablement une clé au fond de notre cœur pour dire, mais nous n'avons rien à craindre. Mais le Seigneur est vivant et je suis vivant avec lui. Qu'est-ce que l'on pense de la nouvelle naissance et puis de tout le reste? Depuis 2000 ans, on cherche encore à s'interroger sur une question longtemps résolue, c'est le mot incrédulité. Oui, le Seigneur veut nous dégager de ça. J'arrive pas à croire. Je ne peux pas croire. Ben oui, mais c'est si simple. Si tu confesses de ta bouche, et voilà la réponse, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est véritablement ressuscité, alors à ce moment-là, tu seras sauvé. Est-ce que c'est compliqué, mes amis? Oui. Vous me faites croire que c'est compliqué? Ben, il y a beaucoup plus compliqué que ça dans la vie. Hein. Si tu crois dans ton cœur qu'il est vivant et qu'il est ressuscité, mais tu es sauvé. Alors, on arrête maintenant avec toutes les peurs que l'on suscite, avec toutes les terreurs. Hein, j'entendais ça encore dernièrement. Dieu te punit de ceci et cela. Mais si on est en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, ça me fatigue, ça. Hein. Non pas ce que je dis, mais ce que je vois en réalité. Eh oui, il est sauvé. C'est une certitude qui peut éteindre toutes les frayeurs humaines. Qu'inspire l'au-delà, hypothétique au-delà. Mais le Seigneur nous a répondu. Sans la foi, sans Christ Sauveur, sans repentance, La parole nous dit qu'on est mort, une mort morale et spirituelle. La foi en Jésus, tout simplement, eh bien, nous affranchit complètement et totalement, et elle éteint toute condamnation et toute punition. Toujours la foi, Jésus anéantit celui qui a la puissance de la mort, nous dit un texte, je crois, dans Hébreux, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Mes frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt, mais le Seigneur peut nous prendre quand il veut, et nous n'avons pas à avoir peur. Que Dieu nous aide, parce que moi je le dis comme ça maintenant, peut-être quand je serai en bascule, là, bon, je ne sais pas comment je réagirai, mais priez pour ça. Moi j'ai vu des hommes de Dieu qui disaient, ben voilà, on a fait ce qu'on a fait, on fait encore ce qu'on a fait, mais Seigneur, donne-moi de bien mourir. Alors certains diront, c'est une belle mort. Mais est-ce que la mort est belle? Question. Maintenant, on peut mourir en étant emporté dans le repos, la paix de Jésus. Et vous savez, combien de fois dans le ministère, après quelques jours de ministère, on a assisté beaucoup, beaucoup de frères qui sont partis. Et on les a vus s'éteindre dans la paix. C'est rassurant. Alors bien sûr, il y a des pathologies, il y a des maladies qui sont peut-être beaucoup plus difficiles, hein. Moi, je pense au cancer parce que c'est vecteur de douleur et de souffrance. Mais bon, il y a d'autres maladies aussi qui font mal. Mais quelquefois, certains, après avoir lutté, même peut-être contre leur propre maladie, se sont endormis dans le Seigneur. Mais vraiment, et ça se voyait, celui qui tourne les regards vers Dieu, son visage est rayonnant de joie. Moi, c'est comme ça que je voudrais partir. Hein? La clé, c'est de le croire, vivre sa vie librement, sans craindre la mort. Car pour le véritable croyant, la mort augure jamais une fin, mais un recommencement. On ne recommencera pas comme on a vécu sur la terre. Ce ne sera pas le même monde, ce ne sera pas le même univers, naturellement. Recommencer heureux. Je termine. La cinquième clé symbolise... est symbolisé par deux ordonnances divines et doctrinales. C'est pour ça qu'il faut revenir à la parole. C'est elle qui est fondamentale dans ce que l'on doit croire ou pas. Deux ordonnances. C'est le baptême d'eau. Écoutez bien. Qui est la clé qui ouvre le témoignage d'intégration dans le corps de Christ. Je suis la porte. Et c'est l'intégration dans cette maison que l'on appelle la maison de Dieu, l'Église et la famille de Dieu. Ça, c'est la porte qui ouvre cette nouvelle famille, cette nouvelle maison. Nous faisons partie d'une nouvelle famille. Voilà. C'est l'intégration. Et la signification spirituelle du baptême d'eau, c'est entrer et sortir. On n'est pas devenus des esclaves, nous sommes devenus des affranchis. Ouais. Parce que les religions en mettent en prison. Hors de l'Église, pas de salut. Tiens. Ben, nous, on a bien pris la liberté de faire, hein, de toute façon. Alors on nous a persécutés pendant des siècles et des siècles. C'est entrer et sortir de l'eau je dis. L'entrée, c'est la mort au péché, et d'en sortir, c'est ressusciter à une vie nouvelle. Ça va ? C'est peut-être pas un thème qu'on prend toujours dans les services de baptême, mais c'est pourtant la réalité. Hein. Et puis la Sainte Cène maintenant, ce que nous allons faire. Pensez-y là, d'ici quelques instants, ça va pas tarder. Hein. La clé qui ouvre... la souvenance. Et la souvenance, c'est le sacrifice de Jésus, ce que nous allons faire. Et ça s'appelle un mémorial. C'est pas une cérémonie, comme le monde religieux le dit. Ce n'est pas sacrificiel, c'est une grossière erreur de penser que c'est sacrificiel. Non, c'est un mémorial. Je me souviens que Jésus est venu me chercher. Il a donné sa vie, il a payé de sa vie par son sang, et puis son sacrifice, finalement, que je suis aujourd'hui, eh bien... un de ses enfants. Et la valeur de l'acte mémoriel, c'est le pain et c'est le vin. Ça, c'est la clé aussi. Le pain, qui est l'image de son corps, et le vin, qui est tout simplement le sang répandu. Clé qui ouvre une nouvelle alliance aussi. C'est plus l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance, la porte de la nouvelle alliance, et l'espoir de son prochain retour. C'est la clé qui me fait espérer que Jésus revient bientôt, et il ne va pas tarder. Une porte se referme à jamais. que personne ne pourra finalement toucher. C'est celle-là, plus de condamnation en Jésus-Christ. Soyez heureux, mes frères et sœurs, qu'il n'y a plus de condamnation sur vous. On fait des bêtises, on a des tentations, on chute. Mais revenons à Jésus, puisque les choses sont faites. Elles sont faites. Il a donné sa vie. Ça, c'est mémoriel. On s'en souvient. Et puis, une porte se referme et une porte s'ouvre. C'est tout simplement la grâce. C'est plus la loi. La grâce, c'est le pardon et la vie. Et le bon berger nous dit ceci. Moi, Jésus, je suis la porte. Afin qu'il puisse y rentrer par la clé de la foi et pour que mes brebis, maintenant aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Que Dieu nous bénisse avec ces 5 clés de la vie spirituelle. Que Dieu nous donne sa grâce. On va simplement courber le front et puis on va demander à Dieu qu'il nous rassure peut-être, mais qu'il nous réjouisse. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour ta parole. Merci Seigneur parce que nous faisons partie non pas d'un peuple exceptionnel, nous sommes comme le reste des hommes, au même titre que tous les autres hommes, des pécheurs. Mais une chose qui est certaine, c'est que tu nous as fait la grâce de nous rendre capables et de croire et de passer par Jésus parce qu'il est la porte. Et toi, ce que tu attends, c'est que nous mettions, en effet, tous les jours, eh bien, la clé dans cette serrure qu'est l'Évangile, pour qu'ainsi, Seigneur, eh bien, nous puissions vivre et vivre dans l'abondance. Visite mes frères et mes sœurs, visite les hésitants, rassure-les, encourage-les, et puis pour nous, donne-nous de nous réjouir, parce que, en effet, dans le ciel, dans le royaume des cieux, selon les promesses que tu as faites, eh bien, il n'y aura pas d'autre temps que l'adoration et la glorification de notre Dieu qui nous a sauvés en Jésus-Christ. Amen.